Plateforme. Les arts et lettres.
Maison des écrivains et de la littérature. Littérature, enjeux contemporains. Littérature en vérité, deuxième partie. Peinture, littérature, même fiction, avec Pierre Vatte.
Cet après-midi, c'est Pierre Vatte qui va s'entretenir avec Jean-Max Collard, que Dominique Viard va vous présenter. Lorsqu'il s'est agi d'élaborer cette programmation de 3 jours, en effet, le nom de Pierre Vatte est venu d'évidence, puisque j'avais repéré dans les bonnes librairies de Paris un de ses livres, puisque Pierre est théoricien de l'art, entre autres, parce que c'est plus compliqué que cela, qui s'intitule « Turner, menteur magnifique », expression qu'il a reprise d'ailleurs dans le passé à un proche de Turner. Et il me semblait que, puisqu'on l'avait décidé, que de rapprocher les questions relatives à la littérature par rapport à la vérité à d'autres arts, eh bien je crois que Pierre Vatte était désigné pour être, on lui a intimé l'ordre en vérité d'être là cet après-midi, et merci Pierre d'avoir accepté. Donc Dominique, peux-tu présenter Jean-Max?
Voilà, donc c'est Jean-Max Collard qui va présenter Pierre Vatte. Je suis très content d'accueillir Jean-Max dans notre petite équipe de modérateurs ici, puisque notre souci depuis très longtemps avec Sylvie et les membres du CEAL de la MEL, c'est de faire en sorte que les modérateurs soient certains des chercheurs universitaires, d'autres des critiques littéraires, de presse ou des passeurs culturels, pour faire dialoguer aussi des approches différentes de la littérature. Et finalement, avec Jean-Max Collard, on est gâtés parce qu'on a les deux à la fois, puisque Jean-Max Collard est chroniqueur d'art plastique pour les Inrocuptibles et qu'il est aussi chercheur universitaire dans mon université, si j'ose ce possessif, l'université de Lille, où il est spécialiste à la fois, c'est vous dire combien de cordes il a, non pas à son arc mais à sa lyre, de la littérature du XVIe siècle et la littérature très contemporaine. À toi Jean-Max.
Oui, voilà, c'est un petit glissement qui me permettra peut-être de discuter ouvertement avec Pierre Vatte. Merci Sylvie, merci Dominique. Merci évidemment d'être là pour cette petite conversation autour de la vérité en peinture. Alors, il ne va pas être question de reprendre l'essai de Derrida, je ne crois pas que ce soit l'objectif de la conversation.
Il fallait me prévenir avant, j'aurais dû travailler, oui.
Mais en tout cas, l'idée évidemment, c'est avec non pas seulement l'essai de Turner, Menteur magnifique, que vous avez publié l'an dernier, mais aussi avec un autre livre assez particulier qui s'intitule « Les lymphéas la nuit » et qui est consacré à Claude Monet. On a là deux livres assez intéressants et qui mettent en jeu des approches d'écriture très différentes, justement de cette vérité de la peinture. Hein. Comment approcher par le langage, vous qui êtes historien d'art, comment approcher par le langage cette vérité de la peinture qui se donne, on va dire, sur le mode pictural qui est le sien, qui est le mode pictural évidemment de la peinture. Alors du coup, comment approcher par le langage et quelle procédure à ce moment-là adopter pour essayer d'entrer dans la vision ou de restituer la vision d'un peintre et son rapport au monde. Alors c'est évidemment ces enjeux-là, ce rapport entre littérature et peinture, ce dialogue que vous avez, vous, avec entre ces deux arts qui vont nous intéresser, et puis évidemment la spécificité de chacun des deux ouvrages. Peut-être une petite question avant qu'on entre directement sur cette question, c'est que je crois savoir, vous m'en avez parlé, que le livre de Monet avait fait l'objet d'une commande spécifique de la part de l'éditeur, c'est-à-dire c'est dans la collection Atelier Imaginaire de Scala, donc on vous a commandé une fiction. C'était quand même déjà assez étonnant pour un historien d'art à ce moment-là d'être sollicité pour pratiquer la fiction. Alors comment vous avez déjà, je dirais, un peu reçu cette invitation?
Mais c'est-à-dire que Sylvie a dit la vérité. Quand on me demande une chose, moi j'obéis toujours. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Non, c'est que Je dis ça, c'est pour remercier Sylvie de son invitation. Et c'est parce que c'est la, et en, très sérieusement, parce que dans les deux cas, c'était un cadeau. Aujourd'hui, c'est un cadeau parce que, je ne dis pas ça par flagornerie, mais parce que quand Sylvie m'a, je vais répondre de manière un petit peu indirecte, m'a sollicité, c'est en me parlant du livre sur Turner, qui s'appelle Turner, Menteur magnifique, où, donc, où la question du mensonge et du rapport entre mensonge et création est effectivement centrale. Et je lui ai dit, tiens, mais tu ne sais peut-être pas, à juste titre, il n'y a aucune raison de le savoir, je viens d'écrire une fiction. Je viens d'écrire une fiction sur Claude Monet, ce qui est une drôle de chose quand on est historien de l'art. Et alors effectivement, c'était une commande, et cette demande de Sylvie m'a fait percevoir qu'en fait il y avait un rapport profond entre le fait que j'écrive sur un artiste qui faisait du mensonge les conditions de la création, et que, sans me comparer en aucune manière à Turner, à mon échelle extrêmement modeste, alors que je suis en tant qu'historien de l'art supposé être là pour tenter de vous dire la vérité en peinture précisément, je me permets cet acte qui est à apparemment, pas de trop grands mots, mais enfin, du point de vue professionnel, une sorte de transgression qui est de produire de la fiction, tout en ayant la sensation qu'à travers cette fiction, quelque chose se dit, peut-être encore plus, selon moi, d'une forme de vérité de la peinture. Donc le cadeau de l'invitation, c'est que je n'avais pas pensé à ça avant, et que m'aider à penser, c'est toujours un cadeau.
Sur les questions de commande, puisque il y a juste, alors c'est un peu adjacent comme question, mais après on va rentrer dans le cœur du sujet. Juste sur cette question de commande, puisque vous êtes visiblement, vous aimez ça, donc je me demande comment, on voit bien que ces deux livres, ils sont quand même associés à deux grandes expositions qui ont eu lieu au Grand Palais. Et donc, du coup, évidemment, loin de moi l'idée de jeter la pierre.
Obéissant et opportuniste.
Voilà, loin de moi l'idée de jeter la pierre aux éditeurs d'art qui font.
Non, c'est pas la peine dans l'état où ils sont.
Voilà. Donc, on comprend très bien que les grands événements, les grandes expositions soient le moment comme ça de publication. Mais comment en tant qu'historien d'art, que chercheur, vous, à ce moment-là, vous conciliez, parce que finalement, comme un peu tout le monde, comme des écrivains, comme des journalistes, comme d'autres dans le milieu de la pensée et de la culture, on a affaire à cette industrie culturelle, au blockbuster de l'exposition, et comment vous frayez en même temps, comment on suit à la fois le fil de sa pensée, de sa recherche, oui, et en même temps on remplit les commandes, on va dire, pour ces grandes expositions, d'autant que vos livres arrivent souvent en amont de ces expositions qui sont censées renouveler parfois, ou qui prétendent parfois renouveler la vision des peintres. Donc elles devraient plutôt procéder des expositions davantage. Ouais. Alors comment vous, ça se combine ?
L'idéal critique, c'est ne s'incarne en France de ce point de vue-là, indépendamment de ce qui est du contenu, que dans un seul magazine, qui est le seul magazine en France à se permettre de faire des critiques d'exposition quand elles sont terminées et non pas avant qu'elles commencent, effectivement. C'est très rare. Alors, de ce point de vue-là, alors deux choses. D'abord, c'est la première fois depuis que j'écris, c'est doit être mon sixième livre, c'est la première fois que je réponds à une commande. Jusqu'à présent, mais effectivement, vous faites remarquer à juste titre que mon livre sur Turner est publié au moment où il y a une exposition. Alors, ça, c'est pas des questions de commande, c'est des questions effectivement d'opportunité. C'est-à-dire que moi, ça fait depuis 1989 que je travaille sur le romantisme européen pour des raisons. Je suis professeur d'université, comme vous, je suis littéraire de formation, et comme vous, j'aime justement les mélanges, finalement, c'est-à-dire que l'impureté générique qui m'intéresse, c'est de ça qu'on parle aussi aujourd'hui. Et donc, pendant très longtemps, ce sur quoi j'ai écrit, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas nécessairement soutenu ou accompagné par des politiques d'exposition. Il est parfaitement exact que quand j'ai su 2 ans avant qu'il y aurait un jour une exposition de John Constable, étant la seule personne en France à ce moment-là à écrire sur Constable, je me suis précipité chez mon éditeur pour lui dire, vous savez, la grosse monographie dont je rêve sur Constable, on va peut-être la programmer. C'est comme ça. Et de la même manière, évidemment, pour Turner, je ne pouvais pas lui infliger à mon éditeur de lui rendre le livre après. Ça aurait été juste totalement stupide. Ça, c'est une réalité économique évidente, mais enfin, il y a beaucoup d'expositions pour lesquelles je n'écris pas de livres. Mais je crains qu'après Constable et Turner, il n'y ait plus beaucoup d'opportunités pour moi, à moins que je change vraiment de spécialité dans les 10 années qui viennent. En revanche, effectivement, Monet, c'est une commande. C'est une commande qui est liée au lancement d'une collection. La collection a été lancée avec 3 titres, un Monet, un Gauguin et un Gustave Moreau. Il est évident que pour la collection qui se lançait, il fallait un Monet. Voilà, il fallait un blockbuster. Je suis donc très honoré que ce soit à moi qu'on l'ait demandé. Pourquoi est-ce que j'ai accepté ? C'est ça la question. C'est parce qu'en fait, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était un véritable cadeau. C'est-à-dire que je suis pas là pour faire ma confession, mais puisqu'on est sur les questions de vérité et de mensonge ici, dans le fond, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans la vie? Il y a deux choses que je fais. Il y a une chose que je fais au quotidien depuis 25 ans, c'est que je regarde de la peinture. Et qu'est-ce que je fais finalement? Je produis une forme de rêverie personnelle devant la peinture. Une rêverie à laquelle je donne en général une forme qui s'appelle de l'histoire de l'art et qui répond, ou pas d'ailleurs, plus ou moins librement, et j'espère de plus en plus librement, à une certaine conception de la discipline, mais finalement qu'on invente au fur et à mesure. Là, on m'a donné l'opportunité de donner à cette rêverie une forme, de lui conserver sa forme de rêverie. Parce que dans le fond, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, à part la peinture, c'est d'écrire. Et comme je fais partie de ces gens qui ont toujours eu besoin d'un détour pour pouvoir avouer ce genre de choses aujourd'hui, j'ai toujours écrit sur les autres par difficulté à écrire tout court, je me suis dit que ça, c'était une occasion que je ne pouvais pas rater. Voilà.
Alors, les nymphéas la nuit, c'est quand même une fiction et c'est aussi une sorte de stratagème. D'ailleurs, assez subtilement, le personnage, le premier personnage, avoue à un moment donné son stratagème. Donc, c'est presque la procédure est donnée par le livre. Pour être plus clair, c'est donc un jeune journaliste qui s'appelle Stéphane Bergholz et qui se fait passer justement pour journaliste, pour une revue littéraire polonaise qui n'existe pas, et qui contacte donc Claude Monet en 1926. À un moment donné, donc. Pardon ?
Oui, un petit peu avant, dans les années 20. Avant, oui.
Dans les années 20, bon. Un moment où Monet est donc très, très, très seul, puisque tous les autres ont disparu et qu'il est un peu reclus à Giverny. Et par ailleurs, dans un moment aussi où il a été, entre guillemets, dépassé, ou en tout cas, dépassé par les avant-gardes et l'abstraction picturale, etc. Et donc, ce jeune homme décide d'aller retourner voir Monet pour recueillir sa parole. Si je dis stratagème, c'est parce que c'est presque un dispositif où, effectivement, vous passez, en quelque sorte, de l'historien au journaliste, en termes de statut dénoncé, et avec l'idée évidemment de redonner la parole à Monet, et à ce moment-là, on se retrouve dans une stratégie qui est plus proche d'une autre activité qui est la vôtre et qui est à côté de vos activités d'historien d'art, qui est d'être un critique d'art contemporain. Vous avez par exemple publié deux monographies sur Pierre Buraglio et sur Claude Viala. Et donc là, on se retrouve dans un enjeu contemporain, on va dire d'une certaine manière, avec un Monet vivant, interviewé par un journaliste. Et donc, évidemment, il y a ce renversement de situation de parole. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est encore dans la fiction? C'est d'abord ce stratagème qui vous a intéressé, ce dispositif d'énonciation?
Là, vous m'apportez la preuve du fait que je suis peut-être devenu un auteur, puisque vous me posez la fameuse question de savoir si le narrateur et l'auteur, c'est la même chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi, Stéphane Bergholz? C'est ça?
J'ai pas dit ça tout de suite, non.
Non, pas tout de suite. C'est peut-être à cette question que je devrais répondre. L'idée, effectivement, c'est, voilà, on me dit, voilà, vous êtes un historien de l'art et on voudrait vous faire écrire une fiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis oui. Et je me dis, en même temps, il me reste un fond de scrupule, je me dis à quoi ça sert qu'on demande à un... Parce qu'il y a plein d'exemples d'ouvrages qui ont été écrits sur des peintres, et qui sont des fictions, mais qui ont été écrites par des écrivains, des vrais. Voilà. Donc, mais moi, on me le demande, c'est à moi qu'on le demande. Donc je me dis, si c'est à moi qu'on le demande, c'est quand même... que dans l'idée, c'est que la fiction nous permette de rencontrer et l'artiste et l'œuvre d'une certaine manière, et donc il y a un certain nombre de choses. On ne m'a absolument pas donné le moindre cahier des charges. Mais moi, je m'en suis imposé un, qui était de me dire, bon, il serait quand même intéressant que de Monet, le lecteur apprenne un certain nombre de choses qui sont, pour rentrer dans le vif du débat, parfaitement exactes. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je prenne Monet vers la fin de sa vie. En 26, c'est un peu trop tard, hein, c'est un peu sur son cercueil, donc c'est pour ça que c'est dans les années 20. Donc, c'est pas grave. Donc, que je prenne le Monet, mais je laisse un flottement, c'est la fin de sa vie. Bon, le Monet le plus tardif possible, puisqu'évidemment ça me permettait tous les flashbacks possibles. Et puis je m'étais dit, il faut un prétexte minimal. Bon, Monet est âgé, un journaliste qui veut aller le rencontrer pour faire un entretien avec lui. Voilà, ça c'était. Il n'y avait aucun stratagème à ce moment-là. Il y avait un dispositif bébête, face auquel je suis resté pendant à peu près 6 mois sans arriver à écrire. J'avais juste trouvé ma première phrase du livre, qui était la réponse de Monet. Ça commençait par la réponse de Monet à une lettre de ce journaliste lui demandant un rendez-vous. Et donc mon livre commençait, et il commence toujours par « Je n'ai pas le temps ». Alors ça devait amuser que moi, mais ça m'amusait que le père de l'impressionnisme réponde qu'il n'avait pas le temps. Et c'était le point de départ de l'ouvrage. Après, on en parle peut-être tout à l'heure, j'ai trouvé mon personnage et le personnage a fait venir toute une histoire. Alors, ce que vous dites sur la question de l'identification éventuellement avec le narrateur, entre moi et le narrateur, cette question, on peut en parler, elle se pose véritablement, mais je ne crois pas du tout qu'elle se pose pour moi par rapport au fait que j'ai par ailleurs une activité de critique d'art, parce que ce personnage, tel que je l'ai inventé au fur et à mesure de l'écriture, j'espère ne pas avoir tout à fait cette posture de critique d'art, parce que finalement il est face à Monet presque pendant tout le livre dans une sorte de posture très médusée, très silencieuse, très interdite. Il recueille de manière très très passive la parole, et bon, dans une perspective initiatique qui aboutit à autre chose. Ce qui est vrai, et c'est vrai pour les deux livres, pour le livre sur Turner comme pour le livre sur Monet, c'est que je n'aurais jamais pu écrire ce livre si je ne fréquentais pas en permanence des artistes vivants. Parce que, et c'est pour ça que je tiens énormément à l'ouvrage sur Turner aussi, et cet ouvrage m'a permis d'écrire le suivant, et par rapport aux livres précédents qui étaient sans doute plus académiques de ce point de vue-là, parce que mon livre sur Turner, je vous disais, c'est mon livre le plus nourri, paradoxalement, mon livre sur Turner, c'est mon livre le plus nourri de ma rencontre, de ma fréquentation des artistes. Parce que quand on fait l'histoire de l'art, il y a des choses qu'on n'apprend jamais et qu'on apprend en permanence quand on fréquente des artistes. Moi qui suis littéraire de formation et qui, vu mon âge, ai vécu dans une éducation, j'ai vécu la fin du structuralisme, c'est-à-dire que l'auteur, on s'en foutait complètement, de toute façon il était mort. Donc à partir du moment où l'auteur était mort, ça n'avait aucune importance et on a été élevé dans la haine du sa vie, son œuvre, etc. Puis un jour, je me suis mis à rencontrer des artistes, j'en ai rencontré un dont je cite volontiers le nom parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, sur lequel j'ai beaucoup écrit, qui s'appelle Pierre Buraglio, qui est un homme d'une immense finesse. Et je lui ai dit, mais Pierre, l'œuvre d'art est autonome. Et il m'a dit, oui, elle est autonome, mais elle est aussi hétéronome. Et c'est la plus grande leçon que j'ai jamais reçue. Et la deuxième leçon, c'est que j'ai regardé des artistes vivre, et le livre que j'ai écrit avant celui sur Turner, c'est une monographie sur Claude Viala. Claude Viala est très présent, d'une certaine manière, dans mon livre sur Monet, fantasmatiquement. Hein, ces gens, je dis de Monet que la couleur lui coule, que la peinture lui coule des mains, c'est de Viala que je parle en disant ce genre de choses. Et quand j'ai écrit mon livre sur Viala, j'ai consacré un chapitre à un sujet qu'aucun cours d'histoire de l'art ne vous enseignera à utiliser comme outil, comme sujet. J'ai consacré un chapitre à l'emploi du temps de Viala. Parce que quand vous allez chez lui, il peint, et puis on s'arrête, et puis on sort, on va au café, et puis il retourne peindre, et puis on parle, et puis on retourne au café, et puis, etc. Et il y a un rite comme ça, quand même obsessionnel, dedans, dehors, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai appris à fréquenter les artistes? C'est que pour moi, être artiste, c'est pas un métier. Moi, mon métier, je suis prof, et quand je rentre chez moi, j'espère, pour moi et puis pour ceux qui sont chez moi, que je continue pas à être prof en rentrant chez moi. C'est un métier. Mais pour moi, un artiste est un artiste en permanence. Et un artiste n'est pas artiste seulement quand il peint. D'ailleurs, je fréquente des artistes depuis 25 ans, je ne sais pas pour vous, je fréquente beaucoup de peintres. Moi, j'ai un goût particulier pour des gens qui font de la peinture, peu importe. Mais j'en ai quasiment jamais vu aucun en train de peindre, puisque ça, on ne le voit jamais. C'est rarissime. En revanche, je les ai vus vivre. Et la conclusion que j'en ai tirée, à les voir vivre, c'est que quand on est artiste en permanence. Et qu'être artiste, c'est une éthique, c'est une manière d'être, c'est un mode de vie, c'est un comportement. Et j'apprends autant sur l'œuvre d'Aude Buraglio, hétéronomie et autonomie, en le voyant vivre, en voyant comment il s'habille, en voyant comment il mange, en voyant comment il voyage, en voyant comment il ne voyage pas, en voyant, etc. Et donc je me suis mis à me poser des questions sur...
Comment il enseigne, bien sûr.
Donc d'autres choses. Et mon livre sur Turner, finalement, c'est un livre qui se pose plein de questions qui sont... Je consacre un chapitre à la maison de Turner. Je consacre des chapitres à ses voyages, mais à la manière dont il voyage et pas tant à ce qu'il fait pendant les voyages.
Pour reprendre la forme globale de l'essai sur Turner, Menteur magnifique, il est composé comme ça de 6 chapitres qui sont que vous appelez des fragments.
Un peu, oui. C'est-à-dire qu'on peut lire dans tous les sens.
Que vous employez et qui sont comme ça des entrées sur des points très particuliers, des aspects très particuliers à la fois de la vie et de l'œuvre de Turner et des lieux où justement il y a une combinaison de l'un et de l'autre. Il y a par exemple ce chapitre 2 sur l'enseignement. De Turner qui a un chapitre à la fois très intéressant parce que tous les témoignages disaient que Turner était un horrible pédagogue, quelqu'un qui avait une très mauvaise élocution.
Oui, il avait un accent cockney.
Voilà, donc les cours étaient
une faute d'anglais.
Et puis vous remettez en quelque sorte à l'honneur la pratique visuelle à ce moment-là de son enseignement et l'idée que le discours de la peinture n'est pas ailleurs que dans la monstration de l'image, etc.
Absolument.
Et par ailleurs, ce chapitre est combiné avec là, vraiment des choses absolument incroyables sur la manière dont Turner a organisé des lieux d'exposition, des galeries d'exposition. Il a organisé lui-même sa maison comme un espace de monstration. Il en a eu plusieurs avec des dispositifs visuels tout à fait étonnants. Et alors, la question, c'est globale sur la forme même du livre. Cette forme fragmentée, pourquoi avoir opté par ce choix qui procède presque par entrée, comme ça, de manière presque chirurgicale, ou en tout cas quelque chose comme de l'acupuncture, où on vient relever des points qui peut-être avaient été un peu endoloris, ou en tout cas qui étaient un peu anesthésiés par les regards d'une histoire de l'art qui était passée dessus, sans voir finalement toute l'intensité et tout ce qui s'engageait de l'œuvre de Turner dans la pratique de ses maisons, dans les dispositifs individuels de ses architectures, dans cette manière de faire les cours, et puis dans la manière dont il organisait sa vie, qui est quand même très particulière.
C'est la première fois que j'écrivais un livre de cette façon-là. Croyez-moi, c'est un livre que j'ai écrit en ne sachant absolument pas. J'ai écrit ce livre comme une taupe qui creuse un trou, c'est-à-dire à l'aveugle. Et j'avançais, je trouvais quelque chose, et tout à coup, on tombe sur un caillou et on dévie. Et finalement, j'ai pas du tout pensé, j'ai pas planifié une forme fragment, mais je suis parti d'une première question, et puis après ça a abouti à une deuxième question, et puis j'ai découvert la non-nécessité qu'il y avait à établir des liaisons, et je ne l'ai jamais pensé ce livre comme une... Quand j'ai fait mon livre sur Constable, j'ai fait une monographie, et il y avait un plan, en plus, comment dire, par formation, franchement les plans, je peux faire ça, je sais terriblement trop bien faire des plans, donc d'une certaine manière j'avais aussi envie de me débarrasser de cette espèce de... Ce qu'il y a de plus difficile quand on veut parler de la peinture, hein, c'est vraiment la leçon, et c'est une leçon que j'ai fini par apprendre en déconstruisant littéralement toutes les études que j'avais pu faire, et notamment mes études littéraires de ce point de vue-là. C'est cette tentation qu'on a en permanence de rendre, puisque nous devons mettre des mots sur de la peinture, le risque, en passant d'un médium à l'autre, c'est de trahir évidemment la nature de ce dont on parle, en lui attribuant une logique, qui est une logique langagière et rhétorique et démonstrative, qui n'est pas forcément dans la chose. Et donc, c'est d'arriver à trouver une forme qui laisse vivre la singularité de l'œuvre, y compris la contradiction de l'œuvre, y compris la contradiction du bonhomme. C'est aussi ce qui m'a amené à intégrer un sort de... Ce livre, c'est pas très joli, mais enfin, ça pourrait s'appeler, j'en parle dans mon introduction, ça pourrait s'appeler Portrait de l'artiste dans son écosystème, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, j'ai effectivement additionné un certain nombre de questions, et qui sont des questions dont on ne parle pas forcément en histoire de l'art. Et quand je dis Portrait de l'artiste dans son écosystème, c'est parce que c'est ce qui justifie pour moi le fait d'écrire une fiction sur un peintre, aussi, parce que dans cette fiction, je m'empare précisément, enfin, c'est une fiction dont une grande partie est consacrée à adresser. Ce livre devait s'appeler initialement, mais comme j'ai donné le titre, j'avais pas écrit une ligne, j'ai un peu souhaité changer le titre, même si tous les pions publicitaires étaient déjà parus, ça devait s'appeler Portrait de l'artiste dans son dernier paysage, celui sur Monet. Hein. C'est de ce point de vue-là, voilà, c'est essayer par l'écriture de donner quelque chose à voir et ressentir qui, à mon avis, touche à la vérité de l'acte créateur, par un discours qui ne soit pas un discours de nature démonstrative et logique. J'ai pas recherché la forme fragment. Je pourrais, ma thèse, elle est consacrée au romantisme allemand et anglais, donc la forme fragment, je pratique, je sais, je peux même théoriser, etc. Mais c'est vraiment venu comme ça, comme une succession d'essais dont je me suis aperçu que l'agencement aboutissait à, si vous passez une métaphore artistique, c'est plutôt un portrait cubiste. Hein, voilà.
Vous dites d'ailleurs que c'est la partie de la conclusion que voilà, qu'il est aussi impossible de... Il y a eu cette tentation de prendre tout Turner, d'essayer de voir tout Turner, et qu'il était partagé avec... Enfin, sa réception est partagée entre, d'un côté, ce qu'ils disent, c'était des peintures de rien, voilà, où il n'y avait rien à voir, d'une certaine manière, et puis, de l'autre côté, il y avait la tentation, au contraire, de dire le tout Turner, c'est-à-dire d'en faire aussi un pré-moderne, de faire quelqu'un qui était avant l'abstraction, etc. Et vous, finalement, ce chapitre, parfaitement, c'est aussi une manière de le... justement de marquer l'impossibilité peut-être de cette totalisation.
Mmh. Il y a un historien de l'art, c'est pas très original aujourd'hui d'aimer cet homme-là, mais j'ai eu la chance de le connaître et de beaucoup l'aimer, qui s'appelait Daniel Arras. Mmh. Et il a écrit un livre qui s'appelait L'ambition de Vermeer. Donc je n'ai pas pu appeler mon livre L'ambition de Turner, mais ça aurait pu s'appeler L'ambition de Turner de ce point de vue-là. Parce que c'est un homme qui a une ambition absolument prodigieuse, mais dont j'ai essayé dont j'ai un peu découvert en travaillant sur cet ouvrage, que l'extraordinaire de l'ambition de Turner, et ça c'est une chose que j'ai pu penser parce que j'ai fréquenté des artistes, par exemple je pense beaucoup à quelqu'un qui est mort malheureusement maintenant, mais qui est pour moi un immense peintre du XXe siècle, qui était Chimon Antai par exemple, et toute la question du mensonge devient pertinente ici, c'est-à-dire quelqu'un dont l'ambition pour l'œuvre est tellement grande qu'elle passe par précisément un certain nombre de stratégies de disparition totale de soi au profit de la peinture. Et toutes les stratégies, on pourrait parler de Turner, de mensonges, c'est-à-dire de double vie, de pseudonyme, de disparition, de masque, de fuite permanente, est au service de cette ambition complètement démente. Par ailleurs, effectivement, j'ai toujours trouvé complètement horripilant et stupide les lectures... s'il y a une notion qu'en tant qu'historien de l'art je combat en permanence, mais enfin il y a des gens qui m'ont aidé à la combattre, des grands historiens de l'art comme Baxendale, c'est la fameuse notion d'influence. Donc Turner c'est un pré, alors moi je comprends pas la catégorie de pré quelque chose, donc c'est soit un pré impressionniste ou un pré abstrait, et c'est sûr qu'en écrivant un livre sur lui j'avais aussi envie d'aborder cette question là pour montrer à quel point elle ne voulait rien dire. La vraie remarque intelligente qui a été faite sur le sujet, elle est due à Marc Rothko, qui disait qui était un fou de Turner, hein, et que si ces tableaux sont à la Tate, enfin malheureusement ils ne sont plus dans le même musée puisqu'on a coupé la Tate en deux morceaux, ce qui est de ce point de vue là un pur crime, puisque Rothko a donné ces tableaux à la Tate à Londres parce qu'il n'y avait qu'une seule Tate, Tate Gallery, et qu'il savait que ces tableaux seraient à côté des Turner, simplement maintenant ils sont à debout de la Tamise. Et on lui pose une question sur Turner, il dit ah oui Turner, ce mec il m'a tout piqué. Et voilà, donc ça c'est le seul sens de l'histoire que je comprenne, c'est qu'évidemment, bien sûr, les impressionnistes l'ont regardé, évidemment les abstraits l'ont regardé, mais lui d'un point de vue métaphysique, puisque Turner est un grand métaphysicien, n'a rigoureusement rien à voir à mon point de vue avec par exemple la très forte poussée matérialiste de l'impressionnisme, enfin Monet c'est compliqué, c'est un peu particulier, et certainement rien à voir avec ce qu'on appelle l'abstraction, même si tous ces gens-là l'ont regardé, enfin c'est toujours une très mauvaise lecture. Il faut jamais, quand on fait l'histoire de l'art, il ne faut pas lire l'histoire à l'endroit, il faut la lire à l'envers. Il y a eu une fameuse exposition qui s'appelait Turner, Whistler, Monet, que j'avais trouvé horripilante, et moi j'avais fait un article où je proposais qu'on fasse une exposition Monet, Whistler, Turner. Ça je comprends dans ce sens-là, là il y a de la lecture et voilà, mais il faut lire les choses dans ce sens-là, me semble-t-il.
Sur un autre aspect un peu commun et intéressant, je trouve, sur cette question de la peinture, c'est, on y revient, mais parce que moi je pense que c'est effectivement au contact des artistes, de l'art contemporain, de ces problématiques en ce moment très fortes autour de ce qu'on appelle le display, l'exposition, c'est-à-dire un regard, le musée comme art ou comme médium, etc. J'étais très intéressé par le fait que vous portiez une attention quand même très pertinente et très accrue à ça. C'est vrai chez Turner, parce qu'une nouvelle fois, je le rappelle, ce sont des chapitres absolument passionnants sur cette question de la manière dont Turner pensait les conditions de son accrochage. Vous racontez, ça c'est invraisemblable, la manière dont Turner venait pendant les salons, au moment de la retouche, dans des jeux de rivalité avec ses voisins, pour essayer justement de retoucher le tableau une fois accroché, pour essayer de l'emporter, on va dire, ceux qui étaient exposés autour d'eux.
C'est l'inventeur de la peinture comme spectacle virtuose afin de rivalité, voire d'exécution du voisin.
Parce que là, la peinture était vraiment performée dans l'espace du salon.
Le Paganini de la peinture, de ce point de vue-là, absolument.
Et vous rappelez aussi que Turner a légué à la Tate ses œuvres en demandant à ce que deux de ses œuvres soient encadrent d'une certaine manière un paysage de Claude Lorrain. Donc cette attention très forte à l'exposition, vous avez d'ailleurs une expression où vous dites que Turner est un artiste de l'exposition, oui. Peut-être un artiste du display, voilà. Et ça, évidemment, c'est une préoccupation qui peut aussi vous venir de la connaissance du romantisme des années 1820, de toutes ces réflexions très intenses autour des nouvelles conditions d'accrochage, et de monstration et d'éclairage des œuvres, etc. Mais aussi, évidemment, au contact d'un art contemporain où on voit très bien ces questions de manière très intense, une sorte d'hyperconscience de l'exposition aujourd'hui qui participe à ça. Mais c'est vrai aussi que c'est présent dans Monet à travers évidemment tout le fond, ce dernier paysage dont vous nous avez parlé, qui est évidemment la maison de Giverny. Et donc du coup on est à la fois dans cette priorité peinture que vous avez intensément, et en même temps ce regard vraiment très élargi sur là encore la peinture dans son écosystème, et qui peuvent être aussi l'écosystème de la peinture, ça peut être les peintures des autres, c'est évidemment un espace, c'est aussi un contexte, enfin c'est tout un regard contextuel sur l'œuvre. Et je me dit, est-ce que là, il n'y a pas effectivement un regard élargi sur la peinture, là où vous disiez, moi, voilà, je suis attaché à la peinture. Comment ça travaille, ça, où est-ce que vous en êtes de votre regard sur la peinture, son élargissement?
Si j'ai failli appeler mon livre sur Monet, Portrait de l'artiste, dans son dernier paysage, c'est précisément parce que je suis absolument... Enfin, c'est pas d'une grande nouveauté de dire ça, il suffit d'avoir été à Giverny pour se rendre compte.
Bien sûr, et ça l'est plus pour Turner. Enfin, en tout cas, moi, c'était une découverte.
Oui, alors que Turner façonne tout son monde exactement comme Monet façonne tout son monde. Sauf que Monet, on le voit, puisque Giverny, c'est l'œuvre d'art totale de Monet de manière absolument évidente. Pas seulement le jardin, puisque la maison, il y a le dispositif de la maison, le rapport entre, par exemple, la salle à manger jaune, la cuisine bleue, la communication entre les deux, l'accord de couleur qui surgit quand on ouvre la porte intermédiaire, la présence des estampes japonaises à tonalité bleue dans les pièces jaunes, etc., le rapport avec le jardin, etc. Tout ça est entièrement créé par lui. Ça, c'est complètement évident. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait évident. Il y a une chose que j'ai trouvée très jolie. J'ai participé il y a quelque temps à une émission de radio sur Monet avec Colette Felous, et dans ses carnets nomades, et bon, elle est interrogée, et puis j'ai écouté l'émission puisqu'elle interroge différentes personnes, et elle a eu la très jolie idée d'interroger aussi les jardiniers de Giverny, et il y en avait un qui disait cette chose magnifique, qui disait oui, parce que vous savez, bon, pour vous Turner c'est un de vos grands peintres, mais c'est aussi un de nos plus grands jardiniers.
Monet, pardon.
C'est revendiqué comme, et elle a parfaitement raison d'ailleurs. Monet disait je m'intéresse qu'à deux choses, à la peinture et aux fleurs, parce que les fleurs sont gentilles. Extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, extraordinaire. Donc, voilà, c'est quelqu'un... Enfin, je crois que si on veut comprendre Monet, par exemple, on ne peut absolument pas se contenter d'une espèce d'image d'Épinal de l'impressionnisme dont on nous fait une espèce de tarte à la crème heureuse. L'impressionnisme, c'est le champ coquelicot, c'est la joie de vivre. La grenouillère, c'est la joie de vivre. Quand il peint la grenouillère, il meurt de faim. Il a sauté dans la Seine tellement il avait faim. C'est Renoir qui lui apporte du pain sec qu'il a volé. Enfin, on est dans un drame permanent. Et pour moi, toute l'idée que j'essaie de développer dans mon livre sur Monet, où j'ai mis pour commencer la phrase célèbre de Joyce, l'histoire est un cauchemar dont je tente en vain de m'éveiller, c'est que véritablement toute cette peinture de paysage est hantée par quelque chose d'autre, par une obsession tout à fait, et par un rapport totalement tragique à la vie. Et ce rapport tragique à la vie, chez Monet, il est là en permanence. Il est là en permanence, et il n'est pas là simplement quand il est avec sa palette à la main en train de peindre. C'est quelqu'un qui passe sa vie, il le dit, si j'avais pu me contenter du possible, et les couleurs viennent me poursuivre dans mes cauchemars la nuit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, si ça avait été un homme de la Renaissance, Monet, on aurait dit que c'était un peintre saturnien. Et moi, finalement, je m'intéresse aux peintres saturniens. Et si je devais le comparer avec un artiste du XXe siècle, enfin, il y a deux artistes du XXe siècle auxquels il fait vraiment penser, Monet, et c'est amusant parce que Turner aussi. Turner, c'est le peintre, pas une ambition de Turner, c'est l'archétype à partir duquel on a pu penser la figure de l'artiste ogre, et d'une certaine manière, on a pensé Picasso à partir d'un modèle qui est inventé du côté de Turner. C'est rarement signalé, ça paraît assez évident quand on travaille dessus. Monet, c'est aussi l'artiste ogre, et d'ailleurs, j'accorde dans mon livre une grande importance à la nourriture, parce que chez Monet, c'est absolument fondamental, cette question, et ça se voit dans j'ai beaucoup utilisé ces photos, la partie la plus documentaire du matériel dont j'ai exposé a été la plus féconde en termes de fiction pour moi, où on voit vraiment quelqu'un qui est une sorte d'artiste ogre. Mais il y a aussi un deuxième aspect de Monet, auquel, si je vais le comparer à un autre artiste, ça peut paraître étonnant, c'est Giacometti. C'est-à-dire, Giacometti, vous savez, il disait... si je pouvais réussir à sculpter ce qu'il y a entre la pointe et l'aile du nez, tout le reste viendrait. Mais entre la pointe et l'aile du nez, il y a le Sahara tout entier. Et voilà, comme dit Cézanne, elle est terrible, la vie. Voilà. Et je pense que fondamentalement, Monet, c'est quelqu'un pour qui la vie, elle est terrible. Il a voué sa vie à la peinture. Pour ceux qui ont vu l'exposition qui vient de finir, il y a un tableau qui, pour moi, est absolument séminal. C'est le tableau qui s'appelle Camille sur son lit de mort. Monet a eu deux femmes. Une histoire très compliquée, peu importe ici. Lui, comme Turner, il multiplie les vies, hein, puisque Turner a des vies cachées absolument extraordinaires. Turner a eu deux femmes, et sa première femme meurt. Elle est veillée pendant son agonie par la suivante. Donc, bon. Quand elle meurt, il la peint sur son lit de mort, ce qui, n'est pas d'une extraordinaire singularité, mais il fait un tableau incroyable, c'est en 1870 et quelques. Et vous mettez ce tableau à côté de la partie des nymphéas qui s'appelle Reflet de saule, par exemple, ou à côté d'une meule de foin effet de neige, vous avez le sentiment que c'est la même chose, que ça a été fait au même moment, donc beaucoup plus tardif. Et il écrit une lettre bouleversante, et qui, moi je prends au premier degré, à Georges Clemenceau, donc j'ai par ailleurs vraiment découvert à quel point c'était un critique d'art prodigieux, qui compte énormément dans cette histoire-là. Et ce tableau-là, il l'a toujours gardé dans son atelier comme une sorte de remords. Il n'a jamais voulu l'exposer. Il est rentré ensuite dans la collection de l'État par Dacion, bon, etc. Et il dit, voilà, j'étais devant une femme qui m'était chère et qui m'aimait encore chère, et je me suis mis à la peindre sur son lit de mort. Et j'ai commencé à la peindre, et puis tout à coup, j'ai vu un bleu, j'ai vu un violet, j'ai vu un rose. Et puis il décrit tout à coup l'exaltation, et je me suis mis à peindre. Et j'ai oublié ce que j'étais en train de faire, et je me suis mis à peindre. Et il parle de la jouissance de la peinture, quoi. Il a complètement oublié. Et il dit à Clemenceau, plaignez-moi, je suis comme l'animal enchaîné à sa meule. Mmh. Voilà, ça, à mon avis, on est beaucoup plus proche de la vérité de ce point de vue-là. C'est ça, être peintre, c'est pas juste le moment où on est en train de faire un tableau dans l'atelier. C'est un rapport au monde, c'est un rapport profond au monde. Et à mon avis, pour ces deux êtres-là, pour des raisons différentes, c'est un rapport tragique au monde.
Alors, à propos de ce rapport tragique au monde, je crois qu'une chose intéressante aussi dans la fiction sur Monet, c'est un rapport tragique à l'histoire qui se dessine, qui est présente évidemment dans... Enfin, pas si évidemment que ça, d'ailleurs, justement, quand on pense à Monet. Et l'histoire est présente à travers, évidemment, la figure de Clemenceau, d'une part, qui est là, l'ami, et le jeune journaliste voit Clemenceau et Monet discuter. Ouais. Et là, à ce moment-là, le journaliste est écarté de ces moments à part. Donc, c'est vraiment une sorte de rencontre entre le peintre et l'histoire, et puis aussi, qui est là en train de se jouer. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment la présence de ce personnage, de ce journaliste, Stéphane Bergholz, qui est polonais, qui vient auprès de Monet parce que son grand-père, son père aurait rencontré Monet dans un train en Norvège. Et donc, c'est le fruit de cette conversation dont son père lui avait souvent parlé, que finalement il vient ici reprendre. Et ce qui se dessine à travers ce personnage de Bergholz, cette origine un peu polonaise, c'est évidemment une autre histoire qui se déroule, et sur fond aussi d'un autre paysage qui n'est pas cette fois le paysage fleuri de Giverny, mais plutôt la steppe à ce moment-là. Et donc il y a comme ça une sorte d'autres paysages tragiques qui s'ouvrent au sein de la fiction. Et ça, c'est assez subtilement fait, parce que c'est vraiment un arrière-fond par rapport au cœur de la fiction, qui est vraiment de remettre en quelque sorte en scène la parole vivante de Monet. Et alors là, évidemment, on pense qu'il y a à la fois de l'histoire avec un grand H, ou avec une grande H, mais aussi une histoire personnelle. J'imagine, enfin je pense que cette histoire de Pologne, voilà, il y a quelque chose aussi peut-être d'une vérité intime qui est peut-être la vôtre. Mmh. Alors comment elle se glisse, on va dire, dans ce fait? Watt, par exemple, c'est Pierre Watt, c'est
bon papier.
C'est de la steppe.
C'est pas très loin. Oui, c'est pas très loin. Oui, oui, non, mais on s'en est dit deux mots avant.
Oui, on en a parlé un peu.
Je peux en parler, oui, oui. Quelqu'un.
Ce qui m'a
beaucoup fait. Non, non, c'est ni une confession, quoique. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'après avoir écrit ce livre, où j'ai écrit donc Stéphane Bergholz une centaine de fois, il a fallu que deux amis le lisent pour qu'ils me disent, alors que c'est un livre qui est totalement traversé aussi par une figure qui. Mon obsession est très banale, qui est la figure de Proust, qui a quelques raisons de traverser un livre sur Monet. Par ailleurs, je n'avais absolument pas entendu que Bergholz, c'était Bergotte. Mais absolument pas un seul instant. C'est la judaïsation, c'est l'aveu de Proust, finalement, à travers moi. Mais comment dire la chose, oui, c'est un jeune homme qui dit voilà, je suis journaliste pour une revue moderniste polonaise qui s'appelle Le Mensuel Littéraire, écrit à Monet, lui dit voilà, je voudrais venir vous voir parce que je travaille pour une revue d'avant-garde et que pour nous, en France, on commence à vous oublier, c'est-à-dire que l'abstraction naît, on se fiche complètement de Monet à l'époque, du côté des avant-gardes. C'est beaucoup plus tard qu'on dira que c'est lui le pont entre tout le monde. Je veux venir vous voir pour faire un reportage sur vous, et puis parce qu'en plus, pour nous, Polonais, vous êtes... Vous représentez la France, vos paysages, c'est vraiment le paysage français, la rue Pavoisée, voilà, c'est la France. Et pour nous, la France, c'est la seconde patrie. Hein, c'est vous qui avez accueilli Chopin, Mickiewicz, etc. Bon, voilà. Et puis il dit, puis j'ai aussi une raison plus personnelle de venir vous voir, c'est que mon père, vous en souvenez sans doute pas, Mendel Bergholz, vous a rencontré à Sandviken, en Norvège, où vous étiez en voyage en 1895. Monet était vraiment en voyage en 1895 à Sandviken, je vous assure. Je doute fort qu'il ait rencontré des Polonais, mais enfin, on ne sait jamais. Vous l'avez sans doute oublié, mais lui ne vous a pas oublié. Pour lui, vous avez été une révélation. Vous étiez l'homme qui... c'était un paysage de neige toute blanche et vous étiez capable, dans ce paysage de neige, de faire surgir du bleu, du rouge, du vert, etc., comme un bouquet fleuri dans un paysage de rien. Et il parlait tout le temps de vous quand on était enfant et vous étiez comme Saint-Nicolas. Ils sont bizarres, les juifs polonais. Ils utilisent souvent des références chrétiennes, mais c'est comme ça. Mon père a dit tout le temps Jésus Maria et je vous assure qu'il n'a aucune raison originelle de jurer de cette façon-là, puisqu'il est juif polonais. Donc, vous étiez comme Saint-Nicolas. C'est l'oncle d'Amérique. C'est-à-dire, mais mon père était tout le temps Monet, etc. Et il lui dit, voilà, mon père est un homme très âgé et il m'a envoyé une lettre et je pense qu'il va bientôt mourir. Et en gros, il m'a dit, va voir Monet. Bon, je n'explique pas pourquoi, mais il veut aller voir Monet pour qu'il lui explique, en gros, comment on peut, à partir du blanc, faire quelque chose. Et donc, Bergholz, c'est l'homme qui me permet de faire venir dans cette sorte de documentaire... sur Monet, l'histoire, effectivement.
Docu-fiction.
Docu-fiction. Allons-y, c'est joli. J'assume. Dans ce docu-fiction, de faire venir quelque chose qui peut paraître, quand on n'est pas au courant, la partie la plus fictive et qui peut être finalement la partie la moins fictive de l'affaire, ou en tout cas la moins fictive pour moi, qui ramène à la grande histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeune homme a eu un grand-père qui a beaucoup compté pour lui et dont il sait que son grand-père a été déporté dans la steppe de la faim, entre Kazakhstan, Ouzbékistan, par le tsar, quelque part, dans la fin du 19e siècle. Ce qui est évidemment une manière pour moi d'anachroniciser quelque chose qui se passe entre 1940 et 1945. Et donc il porte avec lui cette mémoire-là. Il porte avec lui cette mémoire-là. Alors on dirait, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un livre sur Monet ? On pourrait penser que je profite du fait qu'on me dit d'écrire une fiction sur Monet pour raconter la vie de ma famille, c'est-à-dire que mes grands-parents et mon père ont été déportés par les Russes en Asie centrale pendant la guerre, dans la steppe de la faim, où ils ont failli mourir. Bien, ça c'est la vérité, ça c'est ma biographie à moi, mais franchement, c'est parce que ce qui m'a paru intéressant, en faisant de cette steppe blanche le contrepoint du jardin de Giverny, et précisément, c'est d'avoir un personnage qui ramène avec lui la tragédie de l'histoire, parce que je suis profondément convaincu, tout le livre est parti du fait que j'ai été revoir les nymphéas à l'orangerie, et que je me suis pris une baffe fantastique. Je ne l'avais pas vu depuis que j'étais enfant, j'ai eu tort. Donc pour moi, Monet, c'était joli. Voilà. Et Monet, ce n'est pas joli. Et quand j'ai été voir les nymphéas, j'ai eu le sentiment d'être dans un cénotaphe. Pour moi, les nymphéas, c'est le tombeau du temps. Ce n'est pas l'impression fugitive. Ce n'est pas saisir le temps qui passe, c'est être soi-même le temps. Complètement. Et les nymphéas, ce qui quand même finalement son unique œuvre, c'est-à-dire le jardin et les nymphéas, pendant les 20 dernières années de sa vie, c'est cette manière de concentrer toutes les strates du temps en un même instant. Et voilà, et ça, pour moi, c'est un rapport avec le fini et l'infini, et donc avec quelque chose de profondément métaphysique, et certainement pas avec juste une sorte de phénoménologie. Je saisis le monde et je saisis les conditions à travers lesquelles je saisis le monde en fonction de la qualité plus ou moins variable de ma vue ou de ma cataracte. Il a la cataracte au moment où le personnage le rencontre, ce qui est réel. Donc, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que si les nymphéas sont à l'orangerie, c'est parce que le 12 novembre 1918, Monet va voir son ami Georges Clémenceau et vient pour offrir à travers Clémenceau à l'État français ses nymphéas. Et moi je me dis, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ces tableaux? On dit que c'est des grandes décorations, c'est la peinture du paysage. Quel sens ça a, d'offrir ces peintures-là à ce moment-là, de cet homme qu'on a accusé d'être un déserteur en 1870 et qui n'a pas combattu, vu son âge, en 1914. Et je suis absolument profondément convaincu qu'il y a un rapport absolu entre les deux. Je lui fais dire cette phrase de Delacroix qui, quand il peint La liberté guidant le peuple, dit « Si je n'ai pas combattu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle ». Il dit qu'il peut la reprendre à son compte. Cet homme qui, ensuite, va garder le nymphéa pendant des années parce qu'on cherche où est-ce qu'on va pouvoir mettre le nymphéa à Paris. Il y a la question du lieu. Et on ne trouve pas, et se désespère Monet parce qu'il a fait un plan, il veut un lieu ovale, etc. Et il dit cette chose extraordinaire, Monet, il dit que si on ne trouve pas le lieu à Paris, on peut mettre ça en dehors de Paris, par exemple sur le site des abattoirs ou dans un cirque. Voilà. Bon, moi, il faut être attentif aux mots. Par exemple, dans le site des abattoirs. Il imagine que son cercle de peinture, on peut le mettre sur l'ancien site des abattoirs. Je trouve qu'il n'y a pas métaphore plus extraordinaire de ce que le paysage recouvre. Voilà. Et pour moi, sous le paysage, la tranchée. Ou sous le paysage, la déportation, peu importe. Ou sous Giverny, effectivement, la steppe. Donc la steppe me sert, de ce point de vue-là, de contrepoint.
Voilà. Je comprends. Il y a aussi le cirque en même temps. Ça peut être, à ce moment-là, c'est une autre voix.
C'est une autre voix, mais je ne suis pas sûr que ce soit une voix comique.
Ah oui, non.
Il faut voir.
Je vous remercie. Peut-être qu'on va peut-être... je vous remercie beaucoup, Pierre, de toutes ces réponses. Et peut-être qu'on va... Peut-être qu'on va laisser, des moments d'échange avec le public, s'il y a éventuellement des questions.
Oui, comme je sais que la première question est toujours celle qui est la plus longue à venir, je me sacrifie pour laisser la place à la deuxième question après. J'aurais déplacé un peu le débat, quitte à ce qu'ensuite les autres questions vous fassent revenir sur vos textes, Pierre Viat. Mais une question que je me pose et qui touche à l'objet de nos trois journées ici, c'est ce qu'il en est, et du coup, vous êtes à la fois des deux côtés, je dirais, de cette partition, ce qu'il en est des écrits, des écrivains sur la peinture au regard des historiens de l'art, et notamment deux types d'écrits qui ont été pratiqués ces dernières décennies. D'une part, les écrits plutôt des poètes, je pense à les gens qui étaient autour de la revue L'Éphémère, les Bonnefoy, les Dupin, les Duboucher, qui ont beaucoup écrit sur la peinture, parfois des sommes d'ailleurs, mais aussi souvent des textes qui étaient à mi-chemin entre la poésie et la réception, l'émotion devant l'œuvre artiste. Et puis d'autre part, ces textes suscités, là encore, c'est des commandes souvent, par Catherine Floïc dans une collection qui s'appelle Argol maintenant.
C'est à ça que je faisais allusion. Le fait que souvent, on demande à des écrivains d'écrire sur la peinture, ce n'est pas la même chose que de demander à un historien de l'art d'écrire une fiction.
Absolument. Mais justement, là, ce ne sont même plus, comme dans le cas des Bonnefoy, Dupin que j'évoquais à l'instant, des commentaires, ou des commandires plutôt que des commentaires, des commandires de l'œuvre, mais c'est des fictions à partir des images que l'œuvre offre au regard. Et donc, ces textes-là, qui sont des textes littéraires sans aucun doute, très importants, très forts, souvent très, très stimulants, comment les historiens de l'art, reconnus comme tels, éventuellement même théoriciens de l'art, les reçoivent, quelle part leur font-ils et quelle part font-ils à leur possible vérité, puisque c'est notre question.
Je crois qu'il y a beaucoup de questions dans la même question en l'occurrence, mais plusieurs choses. Je vais d'abord vous donner une anecdote qui vous montrera que les choses pour moi sont vraiment totalement intriquées. Vous ne le savez sans doute pas, mais le premier texte qu'Yves Bonnefoy ait jamais écrit sur la peinture s'appelle Peinture murale de la France gothique. C'était une commande, c'était publié chez Paul Hartmann éditeur, et c'était mon autre grand-père. Voilà, on s'en sort jamais. Je distinguerai complètement le poète devant la peinture, ce que vous dites de Bonnefoy, ce qu'on peut dire effectivement du Boucher, enfin bon, beaucoup d'autres exemples. Et puis la fiction sur la peinture, il y a eu des textes aussi chez Gallimard, je me souviens d'un ouvrage de Catherine Lépron sur Caspar David Friedrich par exemple, etc. Alors effectivement, la réponse à laquelle on devrait s'attendre, mais qui me devient difficilement soutenable de ma part vu ce que je fais, c'est que l'historien de l'art voit ça d'un très mauvais œil, parce que en France, l'histoire de l'art, plutôt la critique d'art, souffre pour des raisons historiques du préjugé très fort qui s'est développé autour de ce qu'on appelait les écrivains d'art. Et à une époque où l'histoire, où il y avait la frontière institutionnelle entre l'histoire de l'art et l'écriture d'art était très floue. Et finalement, moi, gamin, on m'a fait lire, pour les raisons que je viens d'évoquer, familial, du Elifort, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Et maintenant, c'est, quand on est histoire de l'art, on considère ça pratiquement en se bouchant le nez, parce qu'on considère que par rapport à, éventuellement, à des questions de vérité, précisément, c'est extrêmement problématique. Moi, ce que j'ai redécouvert. Alors, c'est tout à fait. Je mets la poésie tout à fait à part parce que. Je ne sais pas, les textes de René Char sur Georges Latour. C'est pas en tant qu'historien de l'art qu'on a à dire quelque chose sur le sujet ou pas. Vous voyez, c'est une autre question. Ou du Bouchet sur Giacometti. Bon, voilà. Moi, j'ai lu ça parce que j'aime la poésie, mais c'est une autre question. Ce que j'ai découvert, je peux essayer de vous répondre par rapport au texte de Ergol, par exemple. Je connais, il y a le texte de Yannick Enel sur la Dame à la licorne, etc. C'est que j'ai découvert en le faisant que de passer d'un regard documenté, instruit, etc., à assumer le prolongement de rêverie, finalement, pouvait avoir véritablement une fonction heuristique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je vous disais, finalement, moi, ce que je fais, c'est que je rêve devant les œuvres, et habituellement, ma rêverie, je lui donne une forme universitaire, on va dire académique. Mais que dans le fond, le travail de l'interprétation, le fondement même de ma démarche d'historien de l'art, en fait, il y a une souche commune et ensuite il y a une séparation. Et il y a un moment où on peut assumer la souche commune, ne me dérange pas. Mon éditeur espérait, le pauvre, en lançant une collection, on demandait à l'historien de l'art d'écrire des fictions, il espérait que ça créerait un peu de polémique. Pour créer de la polémique, aujourd'hui, il faut au moins avoir François Pinault pour vous aider derrière, vous voyez, que ça se passe à Versailles, sinon ça devient vraiment super compliqué de faire de la polémique. Donc, aucune polémique, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai que ça devrait créer de la polémique, puisque c'est une forme de transgression, c'est une faute professionnelle, en fait, hein, vous voyez, c'est une faute professionnelle d'écrire un livre comme celui-là, de ce point de vue-là. Mais maintenant, je peux la revendiquer, alors pas systématiquement dans cette condition, parce que j'espère... Je vous ai bien vu que, par exemple, il y a une partie de fiction, enfin, il y a une partie du livre qui touche totalement à ma biographie. Je ne me serais, sérieusement, jamais permis d'amener cette partie-là de ma vie si je ne pensais pas que cette partie-là de ma vie, que cette partie-là de l'histoire, plus exactement, pouvait avoir une fonction, finalement, je le dis en termes académiques, ça me permet de développer une thèse sur Monet. Je convoque de la fiction pour étayer une thèse qui est que sous la joliesse, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc, et ça, bien sûr, je pourrais le faire sans passer par le détour de la fiction, mais le détour de la fiction me permet effectivement de l'exprimer d'une autre manière, et peut-être, mais ça je ne peux pas en juger, mais c'est l'espoir évidemment, que le lecteur, lui, rencontre cette chose-là en face d'expérience sur un mode qui ne soit pas le mode cantonné dans la discipline universitaire.
Voilà. Ce que je trouve tout à fait magnifique dans votre réponse, c'est qu'elle rejoint des propos que tenait tout à l'heure Ludovic de Grotte sur la question du partage et qui se faisait entendre dans la citation de Proust qui est revenue ce matin plusieurs fois, mais aussi autre chose, c'est que ça nous permet de retourner cette formule qui était l'objet de la table précédente, intimer sa vérité, non pas du côté de l'injonction à recevoir quelque chose, mais du côté de l'idée que quand on regarde une œuvre, quand on la reçoit avec sa propre intimité, la vôtre en l'occurrence, biographique, et que cette vérité intime ne se sclérose pas sur elle-même, elle n'est pas à vocation singulière, mais c'est un détour par l'intimité, par l'intimation, on pourrait dire, qui vous permet de toucher à une interprétation à valeur tout à fait générale, en l'occurrence, de l'œuvre de Monet. Et ce trajet-là, très très singulier quand même, hein, ce trajet-là me semble un élément tout à fait important pour comprendre ce qui se passe dans cette mise en œuvre d'une vérité littéraire.
Si je me suis autorisé ça, c'est effectivement avec... Mon but ultime, c'était... quand je vous dis que finalement, pour moi, la leçon, ce que j'ai appris de la vie, c'est que les artistes sont artistes tout le temps, et c'est peut-être la meilleure manière pour moi de donner forme à ça et de le faire rencontrer à d'autres, effectivement, c'était cette forme de la fiction, de ce point de vue-là. C'est ça le but, oui, bien sûr.
Non, je voulais ajouter quelque chose. Pierre Watt avait évidemment raison de dire qu'en critique d'art, notamment, il y a eu ce sorte de haro sur une critique d'art littéraire et sur la volonté d'écarter, justement, pour souci d'objectivité, d'écarter la métaphore, etc., etc., et qui a dans le courant d'une critique d'art plutôt anglo-saxonne. Et moi, personnellement, je ne suis pas le seul à le penser, mais je pense que la critique d'art meurt beaucoup en France d'avoir asséché d'une certaine manière ses formes, d'avoir perdu justement l'expérience de forme, de genre, et aussi d'avoir perdu parfois beaucoup de style, enfin, si ce terme a du sens, mais en tout cas, d'être dans des expériences formelles d'écriture, et il me semble que c'est assez net aujourd'hui. On assiste chez certains critiques d'art à des volontés de réexplorer des genres pour leur capacité éventuellement à malgré tout effectivement pouvoir toucher quelque chose de l'art hors des voies, on va dire, d'un discours qui aurait toutes les garanties et toutes les cautions d'un discours objectivé. Alors je prendrai un exemple, c'est par exemple récemment Guillaume Leblon, qui est un artiste, et Thomas Boutou ont détourné le budget d'un catalogue pour faire finalement une pièce de théâtre qui s'appelle L'Entretien, où c'est la discussion entre un artiste et un critique d'art autour de la question, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un artiste vient solliciter un critique d'art pour faire un article. Donc, c'est toute une réflexion qui est assez intéressante et assez passionnante, et le texte est très bien écrit, et je crois que voilà, il y a beaucoup d'expériences. Moi, je me permettrais, mais c'est vraiment toute modestie, de signaler par exemple que j'avais publié assez régulièrement ce que j'appelais des rêves critiques, et les rêves critiques, c'est juste le fait de comme je vois beaucoup d'expos, eh bien, il m'arrive d'en rêver. Comme je dis parfois, si j'étais boucher, je rêverais de la boucherie, mais comme je rêve d'expos, voilà, je note mes rêves sur l'art, et parfois je fais des rêves d'exposition avant d'aller voir les expositions, parce que ça m'occupe beaucoup de préparer le voyage pour telle exposition, donc du coup j'en rêve un peu avant, et je le fais pas du tout parce que j'ai une fascination pour mes rêves, etc. C'est pas tant la question de l'intime que la question d'abord que l'idée que la critique d'art soit un peu comme l'artiste, une activité 24 heures sur 24, et qu'est-ce que ça peut être que la face nocturne d'une écriture diurne. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une critique d'art de nuit, sachant que de jour, si vous voulez, on ne peut pas se tromper. Si de jour je dis que l'œuvre de Matisse est finalement de Picasso, tout le monde va me tomber dessus. Mais la nuit, on peut le dire. Et donc, du coup, on s'affranchit, si vous voulez, des logiques et des contraintes qui pèsent sur la discipline et qui, à mon avis, assèchent considérablement aujourd'hui la pratique de la critique d'art.
Je peux me permettre de rebondir. Oui, moi, quand on me demande de caractériser ce livre, c'est drôle, je dis que c'est une rêverie, très exactement.
Rêve, oui.
Je dis que c'est une rêverie, précisément. Oui, oui. C'est ce que permet de délivrer la fiction et que ne me permettrait pas de délivrer l'histoire de l'art.
Il nous reste à vous remercier tous les deux. Merci infiniment, Pierre.
Merci
Max.